Alors, je voulais d'abord remercier Nathalie Mons et Michel Lussault de m'avoir sollicité pour cette expertise. Alors, j'ai dû me replonger dans le sujet, puisque il y a 10 ans, on avait publié une série d'études avec mon camarade Olivier Cosnefroy sur le sujet. Donc, il y a des choses nouvelles, il y a des méthodes nouvelles, des résultats nouveaux. Et je dois dire qu'avec l'aide du très bon rapport du CNESCO, qui déjà a fait une revue littérature très, très fournie, je vais essayer de faire une synthèse un peu de ces nouveaux résultats, ou en tout cas de ce qu'on peut en dire. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que les conclusions, au final, par rapport à il y a 10 ans, ne sont pas bouleversées. C'est-à-dire qu'il y a des choses nouvelles, mais on est globalement, je dirais, dans les mêmes lignes des grandes conclusions sur cette question des effets du redoublement sur la réussite scolaire. Alors, mon plan... je vais commencer par quelques remarques liminaires sur la question qui est posée. Ensuite, je ferai quelques considérations méthodologiques, parce que c'est un point vraiment très important dans cette question des effets du redoublement. Et puis, un petit état de la littérature sur quels sont les effets au niveau individuel, c'est-à-dire sur les redoublants. Et enfin, un point plus large, plus macroscopique, sur ce qu'on peut en dire au niveau du système dans son ensemble, et quelles leçons on peut tirer, notamment des comparaisons internationales. Alors, non, j'ai pas appuyé sur mon truc. Alors, tout d'abord, on parle des effets du redoublement, mais on peut se poser une question légitime, qui est les effets, oui, mais de quoi et sur qui? C'est-à-dire que le redoublement, on sait que il y a deux caractéristiques ici que je donne ici, il y en a beaucoup plus, mais en tout cas les deux qui pour moi me semblent importantes quand on se pose la question des effets, c'est qu'on sait que c'est une pratique, le redoublement avant tout, c'est plutôt une pratique d'ailleurs athéorique, on pourrait dire, et qu'elle est très variable selon les contextes, voire inéquitable, ce qu'on avait pu d'ailleurs montrer à l'époque dans certaines de nos analyses, et elle n'a pas pour fonction unique de traiter l'échec scolaire. Voilà, diverses fonctions, et pas seulement celle-là. Donc, bon, il y a des interventions dans la conférence sur ces deux points-là, donc pourquoi j'en parle maintenant ? C'est pour vous dire que quand on parle d'effets du redoublement, les effets auxquels on peut s'attendre sont potentiellement bien plus larges que les effets qu'on peut observer sur les redoublants eux-mêmes. C'est-à-dire que potentiellement, vu qu'on voit que le redoublement est quand même un impact, disons, ou est lié à de nombreux aspects de notre système éducatif, on peut s'attendre à des effets beaucoup plus larges, pas seulement sur les redoublants, mais aussi sur ceux, pourquoi pas, qui ne redoublent pas. Donc voilà, ayant dit cela... quels effets, de manière très simple, on peut quand même s'attendre à observer sur les redoublants eux-mêmes? Bon, des effets positifs, bien sûr, liés au bénéfice d'une année supplémentaire d'apprentissage, et des effets négatifs qui pourraient être induits, qui pourraient transiter, on l'a vu d'ailleurs dans quelques résultats que nous a montré Nathalie tout à l'heure, hein, via des variables comme la démotivation, par exemple, ou des variables liées à la stigmatisation des élèves qui ont redoublé, qu'on avait pu également aussi mettre en évidence dans nos anciennes études. Alors, comment on fait pour mesurer les effets du redoublement sur la réussite scolaire? Donc, là, on voit qu'on a un problème méthodologique très épineux. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de comparer les performances, bien sûr, entre les élèves qui ont redoublé et puis les élèves qui n'ont pas redoublé. Parce que là, on serait face à un biais de sélection. Ça paraît évident, je pense, pour tout le monde. La méthode idéale dans ce cas de figure, ce serait d'observer la réussite d'un élève qui a redoublé, et puis sa réussite s'il n'avait pas redoublé. Mais malheureusement, on ne peut pas refaire la vie de l'élève, donc cette méthode est impossible. En théorie, la méthode expérimentale pourrait répondre à cette question. Elle serait tout à fait adaptée. On pourrait notamment d'ailleurs mettre en concurrence le redoublement et puis une autre pratique, une autre méthode de lutte contre l'échec scolaire. Mais malheureusement, pour des raisons qu'on comprend bien éthiques, cette approche expérimentale paraît difficile, enfin, difficilement acceptable, en tout cas à mettre en œuvre, ça arrive d'être compliqué. Quoi. Donc pour répondre à cette question, on peut faire appel à ce qu'on peut appeler des méthodes dites quasi-expérimentales. Et là, il faut dire que les apports de l'économétrie sont extrêmement importants et surtout sont beaucoup développés ces dernières années, avec des nouvelles méthodes, et notamment des économètres d'ailleurs se sont emparés du sujet du redoublement comme justement un terrain intéressant pour essayer de résoudre cette question très complexes liées au biais de sélection, puis à l'endogénéité aussi dont je vais parler. Donc on a plusieurs méthodes disponibles. Par exemple, une très simple qui consiste à... C'est une méthode d'appariement qui consiste à trouver des jumeaux au redoublement, c'est-à-dire des élèves qui leur ressemblent, mais qui n'ont pas redoublé, alors qu'ils leur ressemblent selon tout un tas de caractéristiques sociales, familiales, et aussi, bien sûr, de performances, on pourrait dire, initiales, c'est-à-dire avant de redoubler, et puis comparer leur réussite future, selon qu'ils ont redoublé ou non. Le problème de cette approche, une des critiques qu'on pourrait formuler, c'est qu'on fait l'appariement sur ce qu'on peut observer. Mais malheureusement, beaucoup de choses nous échappent dans la décision de redoublement, comment est construite cette décision. Donc, on a toute une partie qu'on ne peut pas observer, on n'est jamais sûr d'avoir un vrai jumeau, entre guillemets. Donc, d'autres méthodes ont été proposées pour répondre à cette question dite, qu'on pourrait dire d'endogénéité. Et par exemple, je pense aux méthodes qui font appel à des variables instrumentales, c'est-à-dire à des variables, trouver des variables qui influent sur la probabilité de redoubler, mais sans être liées à aucune caractéristique de l'élève, et en particulier à son potentiel futur, on pourrait dire. Alors, ces méthodes sont tout à fait intéressantes conceptuellement, et elles posent, disons qu'elles permettent d'intellectuellement de bien poser le problème, mais on a disons, en pratique, elle pose un certain nombre de difficultés. La première, c'est déjà, il faut en trouver, des variables comme ça, des variables qui sont une sorte de choc exogène du redoublement, qui viennent influer le redoublement sans rien toucher autre chose, on pourrait dire, pour résumer. Donc c'est quand même pas simple, elle pose débat, et en plus, le deuxième problème, c'est qu'elle repose sur des hypothèses qu'on peut pas toujours vérifier. Donc il y a des discussions, des débats qui font suite aux études, notamment économétriques, qui reposent disons sur une forme de crédibilité de la démarche, puisqu'il y a des hypothèses qu'on ne peut pas vérifier de manière totale, quoi, on va dire. Alors, que dit la littérature? Elle est assez riche, effectivement, Nathalie l'a dit, il y a eu beaucoup d'études, bon, majoritairement, comme il faut le rappeler, qui ont lieu sur le premier degré, voire sur le collège, mais beaucoup moins concernant le lycée. Il y a eu des anciennes méta-analyses donc qui renvoyaient à des études qui étaient faites avant les années 2000, qui montraient des effets négatifs du redoublant. Et puis, plus récemment, il y a eu une méta-analyse qui a eu lieu sur des études plus récentes, mais aussi sur des études anciennes, et qui les reprenait en s'intéressant plus précisément aux études qui, justement, faisaient un effort pour contrôler le biais de sélection des élèves qui allaient redoubler. Et qui portait un effort là-dessus, notamment en contrôlant par les performances initiales entre redoublants et non-redoublants. Et quand on essaye de contrôler ces effets de sélection, ce que nous dit Allen et ses collègues dans une méta-analyse de 2009, c'est qu'on n'arrive pas à des effets négatifs, mais pour le coup des effets nuls, c'est-à-dire statistiquement non significatifs. C'est-à-dire que l'année de redoublement n'a pas ni eu un effet négatif, ni positif, mais nul. Alors en France, on pourrait à peu près... disons, montrer la même photo que ce dont je viens de parler, en fait, avec des études anciennes qui révélaient des effets négatifs, et puis plus récemment, effectivement, quand on essaye de tenir compte des biais de sélection, par exemple, avec des méthodes proches de méthodes d'appariement, on se rend compte qu'on n'a pas un effet négatif, mais qui serait effectivement nul, non significatif. Par exemple, l'étude qu'on avait produite en 2004 montrait qu'entre le CP et le CE2, un redoublement... Donc l'allongement de la scolarité d'un an, c'est en trois ans plutôt que deux, du début de CP au début de CE2, eh bien en fait ça n'avait pas d'impact, c'est-à-dire, pour résumer, c'est comme si les élèves avaient perdu un an. Alors la littérature économétrique, comme je vous l'ai dit, les économètes sont emparés de la question avec des études relativement récentes. Bon, si j'avais à résumer vraiment, parce que vous trouverez ça de manière très détaillée dans le rapport du CNESCO, mais si j'avais à résumer ça... je dirais qu'il y a des résultats contrastés, puisqu'il y a des études qui rapportent des effets positifs, d'autres négatifs. Bon. Et je dirais qu'elles sont contrastées, puisque ça dépend en fait, des contextes dans lesquels elles ont eu lieu, des hypothèses sur lesquelles elles reposent, notamment les choix des variables instrumentales. Donc on a quelque chose d'assez contrasté. Mais avec un point de convergence qui était assez intéressant, je trouvais, dans la littérature récente, c'était dans certains cas, bon, qui ne sont pas le cas français, qui n'est pas le cas français, c'est le cas aux États-Unis, dans certains États ou certaines villes, dans le cas où la décision de redoublement, elle est standardisée, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle fait suite au résultat d'un test standardisé, là, on voit des effets positifs, mais l'année d'après, c'est-à-dire à court terme, et qui ont tendance à s'estomper. Donc on a, de ce point de vue, quelque chose d'intéressant qui nous dit que même si on standardisait la décision de redoublement, on aurait peut-être quelque chose tout de suite, mais qui aurait potentiellement tendance à s'estomper. Il y a eu quelques études aussi d'effets à plus long terme qui sont assez intéressantes, notamment une de Cédric Afsa récemment sur le redoublement sixième, sur l'obtention d'un diplôme, sur la probabilité d'obtenir un diplôme, et qui montre globalement bon, un effet négatif, mais qui serait potentiellement positif pour un quart des élèves. Alors, cette étude, elle a l'avantage justement de sortir un peu, disons, de l'effet moyen et de s'intéresser un peu à voir s'il y a des élèves auxquels ça aurait pu profiter. Et puis il y a une étude d'économiste aussi sur le, donc à plus long terme, là pour le coup, sur le salaire, qui a un impact sur le salaire au final, et qui montre en résumé qu'une année de redoublement a un impact négatif qui est l'équivalent de l'impact positif d'une année d'études supplémentaires. Donc ça reviendra à dire que le redoublement est une année blanche en quelque sorte. Alors que nous disent, maintenant je sors du niveau individuel pour aller à un niveau plus global. Que nous disent les évaluations internationales, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire sur le redoublement? Bon, déjà juste un petit schéma ici très descriptif hein, pour vous montrer, disons, l'image que nous renvoient les évaluations internationales par rapport à cette question du retard scolaire. Bon, là, j'ai représenté donc, le classement à PISA en 2012, donc sur l'échelle PISA, hein, qui est centré en 500 sur l'ensemble des pays. Les petites boîtes, ça veut juste dire que c'est des erreurs d'échantillonnage, donc quand est-ce qu'on peut différencier des pays entre eux. Et on voit que donc, la France se situe ici, donc ça, bon, dans le milieu du peloton, on pourrait dire. Mais ce qui est intéressant dans ce schéma-là, c'est qu'on voit qu'on a deux types d'élèves dans PISA en France. Les secondes générales à l'heure qui n'ont jamais redoublé, qui sont dans la filière générale, qui ont d'excellentes performances au test de PISA, et des troisièmes en retard, c'est-à-dire des élèves qui ont redoublé, qui ont pris un an de retard, qui sont encore au collège et qui ont des performances très faibles au test. Alors, c'est intéressant ce schéma, parce que bon, ça ne condamne pas en soi le redoublement, hein, c'est ce que j'ai dit, ça ne suffit pas de comparer ceux qui ont redoublé par redoublé, mais en tout cas, ce que ça nous montre, c'est qu'on a le sentiment d'avoir un système filiarisé, on pourrait dire, puisqu'on a deux groupes d'élèves très hétérogènes, qui ne sont pas dans les mêmes classes. Donc on pourrait, si on le regardait comme ça, qu'on ne connaissait pas le système français avec le tronc commun du collège, on pourrait dire, ah ben, ce système-là, c'est un système avec une orientation précoce qui me conduit à ces deux grands groupes qu'on voit là. Et d'ailleurs, il faut savoir que les troisièmes en retard ici sont destinés le plus souvent à aller ensuite en lycée professionnel. Donc on a ce sentiment que le redoublement fait office de mécanisme de filiarisation des élèves. C'est un peu l'antichambre, on pourrait dire, de filière. Voilà. Alors, de manière plus générale, maintenant, si on compare les systèmes entre eux, on voit une tendance négative, c'est-à-dire entre la performance globale au test PISA et puis, l'intensité du redoublement dans le pays, hein, c'est le taux de retard. Alors bien sûr, là encore, ça, on ne peut pas en déduire un lien causal, mais on a cette tendance quand même qui est négative. Les élèves plus un pays est adepte du redoublement, et c'est associé à des performances plus faibles. Alors, on ne peut pas en déduire un lien causal, mais on peut quand même en déduire une leçon, qui est de dire qu'il y a des pays qui font autre chose que le redoublement, et ça marche plutôt mieux que chez nous, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont des meilleures performances, et ils ont un niveau d'inégalité sociale, d'égalité de compétences liées à l'origine sociale moins élevée, plus d'équité. Alors, en résumé, on peut résumer, c'est un problème méthodologique qui, disons, a beaucoup progressé dans sa conception, c'est-à-dire que ça, c'est vrai, un vrai apport des économètres d'un point de vue conceptuel pour envisager ce problème, qui n'est pas résolu encore, mais et qui peut expliquer d'ailleurs qu'on ait des résultats un peu contrastés dans la nouvelle littérature. Mais une autre limite que je dirais, au-delà de cet aspect de méthode, c'est qu'on a aussi des données relativement anciennes. Les études dont j'ai parlé, en tout cas dans le cas français, ça date de panels d'élèves des années 90. Voilà, on est sur des choses qui sont quand même assez anciennes, à un moment où le redoublement était bien plus élevé qu'aujourd'hui. Donc on peut s'interroger quand même sur les effets du redoublement aujourd'hui, où il est de plus en plus « marginal », entre guillemets. Est-ce qu'il serait plus important, enfin, c'est sans doute mon hypothèse, mais d'effet négatif peut-être, plus stigmatisant, mais voilà, en tout cas, il faut s'interroger sur, enfin, c'est une des limites, disons, de ces données-là, en tout cas sur les données françaises, l'analyse sur les données françaises, c'est que ces données relativement anciennes, on n'est plus vraiment dans le même contexte aujourd'hui. Mais globalement, si on avait résumé la littérature, on pourrait dire qu'elle est globalement convergente. Il n'y a pas vraiment d'études qui prônent le redoublement en tant que politique efficace de lutte contre l'échec scolaire. On pourrait dire en résumé qu'il a un effet nul, voire au mieux, disons, un effet positif, mais à court terme, et qui a tendance à s'estomper. Et à l'international, une des leçons, si j'avais à la résumer, ce serait peu mieux faire sans redoublement. Surtout dans un contexte où je vous rappelle qu'on a de plus en plus d'élèves qui ont des difficultés, notamment face à l'écrit, et une augmentation des inégalités sociales. Voilà, je vous remercie.